La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous. Très heureux de partager ce temps de méditation avec vous cet après-midi. Luc Goyot, pasteur à l'église évangélique de Colomiers, une belle église dans la métropole toulousaine. J'ai à cœur cet après-midi de partager avec vous sur un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53. On va lire les trois premiers versets, mais on fera référence à d'autres versets de ce chapitre pendant la méditation. Le titre de cette méditation, c'est « Qui a cru ?» Nous lisons le texte. Ésaïe 53, versets 1 à 3. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ainsi se termine cet extrait de chapitre 53 du prophète Ésaïe. Ce que nous pouvons constater, c'est que Jésus, c'est celui dont nous parle le prophète, alors qu'il était un simple enfant, n'était déjà pas le bienvenu. Hérode va chercher d'entrée à le faire mourir. Ce qui paraît incroyable puisque Hérode, qui était juif, roi des juifs, donc instruit, connaissait certainement cette prophétie d'Ésaïe. La Bible nous dit même dans le Nouveau Testament que les sages du royaume lui ont confirmé lorsque les mages sont venus vers lui que le Messie devait bien être à Bethléem. Plus tard, les pharisiens, les hommes religieux, tout aussi au courant de cette prophétie d'Ésaïe, vont également rejeter Jésus. À tel point que Jean, dans son évangile, au chapitre 1 et au verset 11, dira ceci: « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » J'ai peur malheureusement que rien n'ait changé, et qu'aujourd'hui, on ait toujours cette impression que Jésus n'est pas le bienvenu. J'ai été frappé ces dernières années de certains événements qui ont eu lieu avec des personnes qui s'opposent à ce que l'on mette des crèches dans les lieux publics. Je ne suis pas personnellement un adepte des crèches, je ne suis pas contre non plus, mais ce que je comprends, c'est que derrière la volonté d'interdire ces crèches, c'est la volonté d'interdire Jésus. Qu'on ne parle pas de Jésus. Aujourd'hui, on peut discuter de tout. On peut même discuter des choses les plus vulgaires. Mais si vous parlez de Jésus, alors là, problème. Ésaïe pose cette question dès le début de son discours prophétique sur la passion. Qui a cru ? Nous l'avons vu, les Juifs ont rejeté Jésus alors qu'il était annoncé par les prophètes, dans lequel ils croyaient, comme celui qui venait les sauver. Cette même difficulté existe encore aujourd'hui alors que Jésus est notre sauveur. Il est venu vers nous pour nous sauver de l'enfer, de la perdition éternelle. Il l'a fait au prix de donner sa vie. Il a fait un acte incroyable d'abandon de soi en quittant le ciel, en allant sur la croix, mourir pour nous laver, nous purifier de nos péchés. Ainsi, il nous sauve de l'enfer. C'est un peu comme si quelqu'un se noie et vous lui lancez une bouée et il refuse de l'attraper et il préfère se noyer. Ainsi en est-il aujourd'hui, celui qui est venu pour sauver les hommes est rejeté par ces mêmes hommes. J'aimerais faire deux constats sur ce texte d'Ésaïe 53, en tous les cas sur ces premiers versets dans un premier temps. Le premier constat, c'est que l'homme ne veut pas de Dieu. Je l'ai dit, Jésus est venu vers l'homme, s'est sacrifié pour lui. Il y a quand même des millions, peut-être des milliards de gens qui ont cru en cela depuis que cet événement est arrivé il y a un peu plus de 2000 ans. Il y a aujourd'hui des millions de personnes qui croient à Jésus, qui croient en Jésus comme le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Mais pourtant, il y a une très très grande partie de l'humanité qui le rejette. Jésus voyait d'une manière prophétique ces temps de la fin que nous vivons et il posera cette question dans Luc chapitre 18 verset 8. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il reviendra sur la terre? Dans son texte, Ésaïe nous parle d'une difficulté, c'est que Jésus est venu sans rien pour nous plaire. Il est venu dans une grande faiblesse au travers d'un simple petit enfant, un simple fils de charpentier. Il faut savoir que dans l'inconscient collectif, à l'époque, on attendait la venue de quelqu'un de puissant et de fort qui allait délivrer Israël de la main de l'empereur romain. Mais Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Il est venu pour établir un royaume céleste. Ce qui l'importe, c'est notre spiritualité, avant toute autre chose. Aujourd'hui, on aimerait un Dieu qui arrête les guerres, un Dieu qui arrête la pauvreté, un Dieu qui arrête la haine, un Dieu qui arrête la maladie, la souffrance, un Dieu qui nous fasse prospérer sur le plan matériel. Et on va même jusqu'à lever le poing en criant « S'il y avait un Dieu !» Ou comment peut-il permettre tout cela? Mais en fait, dans ces versets que nous avons lus en introduction, nous avons la réponse à tout cela. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a la pauvreté, la haine, la maladie? C'est parce que nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons rejeté, nous l'avons dédaigné. Attention, surtout n'interprétez pas ces propos dans le sens où, puisque nous l'avons rejeté, Dieu nous envoie tous ses malheurs. Non, c'est parce que nous n'avons pas écouté sa parole, que nous n'écoutons pas ses enseignements, que nous-mêmes, tout seuls, nous fabriquons les guerres, la pauvreté, la haine et toutes ces choses. Alors qu'on attendait un super-héros qui allait régler tous nos problèmes, Jésus est venu régler un seul problème. Et il est d'ordre spirituel. C'est de régler la séparation qui a été construite lors du péché originel par Adam et Ève entre le Père céleste, le Créateur et l'homme. Notre besoin spirituel est d'être réconcilié avec notre Dieu parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que si nous restons dans notre état de péché, nous sommes séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Et donc si nous ne passons pas par Jésus qui nous purifie et nous lave de nos péchés, nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu. Mais c'est merveilleux de savoir que Jésus a payé par le don de sa vie sont sans verser notre possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Quel dommage de ne pas en profiter. Pour nous les chrétiens, nous avons compris que nous pouvons être réconciliés avec notre Père Céleste au travers de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus s'approche d'un paralytique, cela nous est raconté dans les évangiles, on lui amène le paralytique, évidemment tout le monde s'attend à une guérison de ce paralytique sur le plan physique, mais Jésus va lui dire d'abord, réjouis-toi de ce que tes péchés te sont pardonnés. Incroyable. Mais Jésus savait que le premier besoin de cet homme n'était pas sa guérison physique, mais sa guérison spirituelle. Nous savons qu'il va aussi le guérir sur le plan physique. Les hommes ne recherchent que ce qui satisfait leur chair, leurs envies, et ils ne se soucient pas de leurs besoins spirituels. Ils veulent la santé, l'argent, le bonheur, mais pas la réconciliation avec Dieu. Ils sont un peu comme, vous savez, les enfants qui demandent ce qu'ils ont envie, ce qui leur fait plaisir, mais qui ne demandent pas toujours ce dont ils ont réellement besoin. Ésaïe voit juste pour le temps où Jésus va venir donner sa vie sur la croix. Lorsqu'il dit « méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage ». Et la phrase la plus terrible, nous l'avons dédaigné, nous n'en fait de lui aucun cas. Mais cette parole est prophétique pour le moment où Jésus vient sur terre, mais je crois qu'elle est encore prophétique, hélas, dans notre société aujourd'hui. Nous méprisons le Seigneur. Nous détournons de lui notre visage. Nous le dédaignons, nous ne faisons de lui aucun cas. Mais dans la deuxième partie de ce message, j'aimerais vous dire quelque chose d'important et que l'on voit dans la suite du chapitre 53 d'Ésaïe. Face au mépris des hommes, Dieu veut quand même manifester son amour et il ne cessera jamais de le faire. Amen, quelle grâce! Dieu manifestera sans cesse son amour, même pour celui au monde qui le méprise le plus. Dieu ne pourra pas s'empêcher de l'aimer, parce que Dieu est amour. Et la première manifestation de sa puissance, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas la création, ce ne sont pas toutes ces choses. La première manifestation de sa puissance, c'est son amour. Jésus va être rejeté, mais il va quand même accepter de mourir pour ceux qui le rejettent. Il va même implorer, alors qu'il est sur la croix, en train d'être crucifié, le pardon pour ceux qui le crucifient. Nous connaissons cette parole. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il n'a rien pour attirer le regard. Oui, il est méprisé de tous. Mais jamais aucun homme n'aura jamais fait et ne fera jamais ce que Jésus a fait pour nous. On le lit plus loin dans Ésaïe 53, au verset 5. Il a été blessé et brisé pour nos péchés. Il a pris notre châtiment pour que nous soyons en paix avec son Père. Il a été meurtri pour notre guérison. Ce châtiment, c'est nous qui le méritions à cause de notre péché. Mais Jésus a dit non. Pas lui, pas toi, pas moi. Mais moi, je vais prendre le châtiment à sa place. Ésaïe nous dit au verset 6 que l'homme était un être errant comme une brebis sans berger, suivant ses propres voies. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Les hommes ne veulent pas d'un berger, ne veulent pas de quelqu'un qui lui dise, qui leur dise ce qu'ils ont à faire. Ils veulent suivre leur propre voie. Sauf que nous savons que c'est en suivant l'enseignement du Seigneur que nous pouvons être réellement libres et réellement heureux. Je reviens à mon titre. Qui a cru ? Alors que l'Éternel, au lieu de faire tomber sur toi le châtiment à cause de ton péché, a choisi de prendre son Fils et de le sacrifier à ta place, vas-tu encore rester dans le dédain et le mépris ? Tu serais un peu comme une personne qui regarde quelqu'un qui a sauvé son fils ou sa fille de la noyade. quel serait son regard envers cette personne? Des yeux qui diraient « Comment puis-je vous exprimer ma reconnaissance ? Que puis-je faire ? En retour, tout ce que vous avez fait, vous avez sauvé mon fils, ma fille. Il serait mort aujourd'hui si vous n'étiez pas intervenu. » On ne peut pas imaginer avoir un regard de mépris et de dédain dans un tel moment, n'est-ce pas ? Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire que nous avons tous, à un moment donné, eu ce regard de dédain et de mépris face à celui qui nous a sauvé la vie, qui nous sauve de l'enfer, de la perdition éternelle. Parce que l'enjeu est celui-là. Je discutais un jour avec quelqu'un qui me disait mais Dieu est amour, donc il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Mais Dieu n'envoie personne en enfer. C'est nous-mêmes qui choisissons d'y aller. Dieu, au contraire, voyant qu'à cause de notre péché, nous devons aller en enfer, et il ne supporte pas cela, évidemment, là je suis d'accord avec ça, Dieu ne supporte pas qu'un homme puisse aller en enfer. Donc pour que les hommes n'aillent pas en enfer, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en sacrifice son Fils. Et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, alors le paradis est ouvert. Donc Dieu a tout fait pour que nous n'allions pas en enfer. Et malheureusement, ce sont les hommes qui choisissent eux-mêmes de rejeter le moyen de salut et qui prennent le risque de passer l'éternité dans un lieu de tourment que nous décrit la Bible, un lieu terrible. Terrible pourquoi ? Parce qu'il y aura l'absence totale de Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus a justifié beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et plusieurs textes dans la Bible nous disent qu'il intercède auprès du Père en notre faveur. J'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus avant de conclure. C'est incroyable, non ? Jésus est à côté de son Père et il intercède, il plaide ma cause. Alors que je suis pécheur, il plaide ma cause. Il veut plaider ta cause. Même si tu es le pire des pécheurs, il plaidera quand même ta cause parce qu'il a versé son sang pour te laver et te purifier. Veux-tu croire en cela ? En fait, on complique souvent la question du salut. On pense que on va être sauvé parce qu'on a fait telle ou telle bonne œuvre. On pense qu'on va être sauvé parce qu'on a donné de l'argent à l'église. Ou on a donné de l'argent aux pauvres. Mais la Bible nous dit que rien de tout cela ne nous sauve. Toutes ces choses, nous les faisons en retour du salut qui nous a été offert. Pas pour gagner le salut, mais en retour de ce salut qui nous a été offert. Toutes ces choses, nous voulons les faire, pas par intérêt, mais par amour, comme Jésus s'est sacrifié alors qu'il n'y avait lui-même aucun intérêt, mais il l'a fait par amour pour nous. À cause de cet amour, il intercède en notre faveur auprès du Père. J'aimerais conclure ces moments en vous disant quelque chose d'important. Cette prophétie d'Ésaïe que je vous invite à lire et à relire dans le chapitre 53, elle nous parle avec précision de la croix, de la mort de Jésus à la croix, de la venue de Jésus sur terre, des hommes qui le refusent, de la manière dont il a été tué, il est mort, de l'état d'esprit des hommes de son époque. Tout est décrit avec précision. Et savez-vous combien de temps ce texte, et ça c'est prouvé d'une manière historique, personne ne peut le contester, ce texte a été écrit 700 ans avant la croix. Et tout cela me conforte dans l'idée que la Bible est vraiment la parole inspirée de Dieu pour chacun de nous, à laquelle nous devons prêter une grande attention, parce que c'est en suivant les préceptes qui sont dans la Bible que vous connaîtrez des temps sans pauvreté, sans guerre, sans discrimination. C'est en écoutant l'enseignement du Christ, non pas comme l'ont fait dans l'histoire, malheureusement, les religions, non pas en mettant cet enseignement au service de l'Église ou de notre cause, mais en mettant cet enseignement comme une parole à laquelle nous devons chacun nous soumettre. Alors je termine en posant cette question. Allez-vous ne faire de lui aucun cas? Allez-vous le dédaigner? Allez-vous le mépriser encore? Ou allez-vous croire, tout simplement? Puisque ce ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les œuvres que nous pouvons présenter, toutes les qualités que nous pouvons avoir qui nous sauvent, mais la seule chose qui nous sauve, c'est l'amour de Dieu qui a donné son Fils sur la croix et le fait d'y croire. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est le commencement et la base du salut, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et croire, c'est le moyen pour être sauvé. Il y a eu cet amour qui a été offert, maintenant tu dois croire. Et tu dois accepter Jésus comme ton sauveur. Et ainsi, tu seras réconcilié avec le Père. Je t'invite à faire cette prière, à répondre à la question qui a cru par un oui franc. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Et que ta parole maintenant pénètre les cœurs pour le salut de chacun. Je rends gloire à ton nom. Amen.
Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Je crois.
crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit.